enfin c'est un travail qui s'est commencé même en 2014, sur la question des cafés cosmopolites, des quartiers populaires stéphanois. Donc le titre de ce film s'appelle Sociologie de comptoir, et a pour sous-titre Café cosmopolite. Et donc c'est un projet qui est alimenté par une recherche socio-anthropologique tout à fait sérieuse et rigoureuse, et qui s'est conduite en parallèle de l'exposition qui se tient actuellement aux archives municipales de Saint-Étienne et qui porte sur l'histoire du peuplement stéphanois, et donc qui s'appuie sur les fonds d'archives des archives municipales, beaucoup de fonds photographiques, et aussi cette archive met en lumière certains programmes de recherche, actions d'associations qui portent sur ces questions aussi. Donc du coup le projet autour du film prend place aussi dans l'exposition. Voilà. Et donc comment j'en suis venue à parler des cafés, ça remonte en fait justement au travail précédent que j'avais fait sur les mineurs qui ont travaillé dans les mines à Saint-Étienne, et des entretiens que j'avais conduits auprès de ces mineurs et qui laissaient une très large place à la question des cafés comme des lieux importants dans leur parcours migratoire, et en particulier dans le rôle très important qu'ils avaient tenu dans l'accueil. Donc dans l'accueil de ces migrants venant de Kabylie, arrivés dans les quartiers centraux de Saint-Étienne qui jouaient cette fonction d'intégration dans la ville, et à travers ça dans la société française. Les cafés étaient une adresse qu'on avait en poche avant de partir et qui nous permettait à l'arrivée de trouver le gîte, le couvert. Et puis on voit dans le film effectivement qu'il y a plein de fonctions qui sont remplies à partir de là, comme la fonction de banque, hein, puisqu'on pouvait laisser son salaire au patron de café, ou à la patronne notamment d'ailleurs, qui tenait un peu les cordons de la bourse. Et puis
division sexuelle traditionnelle dans les milieux ouvriers.
Tout à fait. Et puis l'autre fonction, c'était la fonction d'un peu d'agence d'emploi, puisque le café était le lieu où le patron venait chercher, ou le chef d'équipe venait chercher des employés en disant ce qu'il attendait, et donc les personnes qui étaient en charge d'emploi pouvaient être présentées au patron. Voilà. Et donc c'est un lieu de sociabilité évidemment. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir la fonction d'accueil et de solidarité interne que ça avait pu jouer. Et au-delà de ça, je me suis intéressée donc à des cafés, au-delà des cafés kabyles qu'on pouvait trouver, notamment dans la rue Tarentaise à Saint-Étienne, comment d'autres vagues migratoires avaient bénéficié de ce type de lieu, et comment des lieux quotidiens de la vie stéphanoise pouvaient aussi servir d'espaces et de lieux d'accueil, de solidarité, de convivialité pour des populations qui venaient de l'extérieur et qui arrivaient nouvellement dans la ville.
Mais tel que tu le présentes, ça implique que tu as d'abord commencé par les cafés kabyles, et après tu as vu des cafés d'autres groupes d'immigration.
Oui, c'est ça. Enfin, alors je dis ça, j'appelle ça les cafés kabyles, mais ça veut... Effectivement, je suis entrée par cette porte-là parce que c'est les Kabyles, ces anciens mineurs, qui m'avaient parlé des cafés, et comme ça, j'ai rencontré des patrons de cafés actuels qui tiennent encore des établissements et qui, depuis parfois plusieurs générations, et qui faisaient ce type de témoignage. Et puis après, j'ai voulu voir d'autres quartiers de Saint-Étienne, et m'intéresser à d'autres cafés pour essayer justement de voir comment ça avait pu se passer pour les Portugais, pour les Espagnols. Et en fait, en m'intéressant aux cafés eux-mêmes, eh ben, je me suis surtout rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient tenus par des gens qui étaient issus d'immigration, et qui, au-delà de ce service communautaire, devenaient très vite très cosmopolites. Donc c'est ça aussi qui m'a justement intéressée.
Et si on revient aux différents types d'immigration, Kabyle, tu parles des Italiens, etc., ils avaient tous les mêmes fonctions, ou les fonctions variaient en fonction du type d'immigration ?
Alors, tu parles des fonctions, des métiers,
que,
tu veux dire
Non, telles que cafés. Tu les as décrites, servait de banque, d'emploi, etc. Est-ce qu'on retrouve ce même type de fonction dans les différents types de cafés en fonction du type d'immigration?
Alors, effectivement, il y avait des cafés qui avaient des fonctions plus poussées. Ça dépendait effectivement du type d'immigration. La particularité des cafés algériens, je dirais, d'abord, il s'adressait à un public, à une clientèle qui était analphabète. Donc, du coup, le café permettait de remplir la fonction d'écrivain public. Ça, c'est très, très particulier aux Algériens. Enfin, après, ça allait au-delà. Ça, c'était aussi pour les Marocains et les Tunisiens. Mais en plus, les Algériens étaient les seuls à avoir la possibilité d'ouvrir des cafés puisqu'ils avaient accès à la licence, puisqu'ils étaient considérés comme des citoyens français. Donc, au niveau légal, ils avaient la possibilité d'avoir des...
Mais là, tu remontes très loin en arrière, alors.
Avant les années 60, oui.
Avant la fin de la guerre d'Algérie, alors.
Voilà.
D'accord.
Mais en fait, les premiers Algériens et donc les premiers cafés ont été ouverts dès le début du XXe siècle. Chose qu'on ne sait pas toujours. Voilà. Et par rapport aux autres... Alors, et puis, il y avait aussi le fait que, du coup, comme c'était... c'était des populations qui n'étaient pas tout à fait organisées de la même façon. Les Italiens, par exemple, ont eu des associations, des amicales d'entraide, des associations d'entraide, des associations culturelles assez tôt, dès la fin du 19e, je crois. Donc, c'était des lieux qui servaient de lieux de sociabilité. Donc, les cafés ont été ouverts beaucoup plus tard. Et voilà, une fois que les gens étaient plus installés, quoi, je dirais. Donc ils n'avaient pas cette fonction d'écrivain public, mais la fonction quand même d'accueil dans la ville, de renseignement, d'initiation à certains lieux, à certaines fonctions administratives, comment trouver un logement, comment trouver un emploi, comment trouver une aide financière, etc. Ça se faisait quand même beaucoup par l'intermédiaire des cafés aussi. J'ai pas beaucoup travaillé sur les cafés italiens, je les donne en exemple, mais j'ai pas beaucoup travaillé sur eux. Mais par contre, sur des cafés qui sont tenus actuellement par des Portugais et qui parlent de l'immigration portugaise, à Terre Noire notamment.
Mais si on parle de la dimension algérienne marquée, évidemment, on pense immédiatement à la guerre d'Algérie. Donc, quel a été le rôle ? Est-ce que ces cafés ont eu une place particulière au moment de la guerre d'Algérie? Est-ce qu'ils ont servi de base, entre guillemets, au FLN? Est-ce qu'il y avait des clivages entre cafés, puisqu'on sait qu'avec entre le FLN et l'MNA, les rapports ont été violents? Est-ce que ça s'est retrouvé aussi à l'intérieur des cafés?
Alors, en fait, les cafés sont un peu le reflet de la société qu'ils accueillent. Donc, effectivement, c'était des lieux qui pouvaient servir de point de, comment dit-on, de récolte d'argent, etc. C'était, en tout cas, une fonction qui est sûre, c'est que c'était des lieux de rendez-vous, des lieux de rencontre, des lieux, ça a toujours été pour toutes les vagues migratoires, comme pour les Stéphanois, les cafés avaient une arrière-salle qui servait de lieu de rendez-vous. Alors, soit c'était, on avait besoin de discuter affaire avec quelqu'un, de contracter quelque chose, et du coup, on se voyait dans cette arrière-salle pour être tranquille. Soit c'était effectivement la réunion d'une association. Donc, par exemple, les excursionnistes de la Loire avaient les cafés dans lesquels ils se retrouvaient les samedis après-midi, parce que les excursions, on ne les fait pas toute l'année. Il ne fait pas toujours très beau à Saint-Étienne.
Il paraît. Oui.
Voilà. Donc, on a quand même du plaisir à retrouver ses amis. Et donc, on va au café, malgré le fait qu'on ne fait pas de balade, et on est dans l'arrière-salle du café. Et beaucoup d'associations n'avaient pas de locaux, mais se retrouvaient donc dans des cafés, ce qui était le cas donc des associations militantes algériennes. Et effectivement, moi je ne suis pas une spécialiste de la question de la guerre d'Algérie, mais les cafetiers témoignent du fait. Alors les anciens, je ne les ai pas trop interrogés là-dessus, ils sont un peu prudents, un peu confidentiels sur la question, mais les plus jeunes qui ont aujourd'hui une cinquantaine d'années et à qui on a raconté cette histoire ou qui en ont été témoins, mais petits, parlent effectivement de plusieurs règlements de compte qui ont concerné des cafés qui ont été caillassés ou voire mitraillés parce qu'ils avaient accueilli un responsable politique qui n'était pas bien vu par l'autre camp. Donc ça, c'est plusieurs, j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens-là.
Mais cette histoire,
elle est encore racontée.
À raconter, elle est encore de l'implicite, ils ont encore du mal à en parler.
Alors ça dépend, il y a des témoins qui sont plus bavards que d'autres. Mais après, moi, j'ai pas été dans la précision de quel lieu était dans quel camp. Et en plus, il faut aussi relativiser un peu les choses parce que les cafetiers avaient pas trop intérêt à être très affichés politiquement. Et ils pouvaient parfois être un peu... ils n'avaient pas le choix, en fait. C'était un groupe politique qui faisait... qui s'installait là et qui naissait à cet endroit-là. Le patron n'avait pas forcément d'affinité politique avec, avec le parti en question, quoi. Voilà. Mmh. Bon, disons que c'est un peu raconté comme ça aussi.
D'accord. Mais donc, ça, tel que tu le présentes, ça implique aussi que ton travail a une forte dimension, disons, récente, contemporaine. Tu n'as pas fait... l'histoire de ces cafés depuis un siècle. Tu t'es
non.
plutôt intéressée...
Je ne suis pas historienne, je suis sociologue, voilà. Donc je me suis davantage intéressée à la mémoire, en fait, et à la place sociale de ces cafés aujourd'hui, dans la façon dont on raconte leur histoire, plutôt que d'en faire réellement une histoire sociale au sens disciplinaire du terme.
D'accord. Et tu as travaillé comment ? Tu as travaillé avec des entretiens, des photos, des enregistrements vidéo ?
Alors, le gros du travail s'est fait à partir d'entretiens, toujours accompagné, parce qu'en fait, on a oublié de dire que c'est un film de photos. C'est un film de photos, essentiellement de photos récentes, qui ont été réalisées par Sandrine Binou, avec laquelle j'ai fait le terrain. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles faisaient partie du travail précédent sur la mine. Donc on a poursuivi ce travail ensemble et donc elle m'a accompagnée sur tous les entretiens et elle a fait une bonne partie des photos au moment des entretiens. Donc il y a eu ce travail-là qui s'est fait donc un petit peu comme une sorte... On a glané des entretiens dans plusieurs cafés de plusieurs quartiers de Saint-Étienne. Donc il y a le quartier de Tarentaise-Beaubrun, il y a le quartier de Chavanel, celui de Jacquard, celui de Terre-Noire et Tardy. Et donc voilà. Ensuite, on a confronté aussi ces récits et ces images au fonds photographique des archives municipales de Saint-Étienne, essentiellement le fonds Paul et le fonds Le Ponce, avec lesquels j'avais déjà travaillé aussi pour le travail sur la mine, donc que je connaissais un petit peu, mais que j'ai fini de redécouvrir, qui sont des fonds documentaires et de photos de studio absolument magnifique, dont vous pouvez voir des extraits d'ailleurs aux archives municipales pour l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine. Et donc voilà, donc on a travaillé comme ça, et puis on a travaillé par immersion, en particulier dans un café qui est le café des Acacias, qui se trouve à avenue Émile Loubet, dans lequel on est resté plusieurs jours de suite avec la complicité de bénévoles qui accompagnent aussi le travail de carton plein au mois d'avril l'année dernière. Et où là, on a fait une immersion un peu plus dans la durée, je dirais, au cours desquelles on a récolté énormément d'entretiens.
Marocain, qui est arrivé du Maroc, il avait 12 ans, il est parti tout seul. C'est un homme montant, c'est un truc de fou. Tu vois, il habitait là. Il est venu ici parce qu'il a entendu qu'il y avait du boulot et il est venu travailler à la mine là. Et c'est là où il a connu ma grand-mère, qui elle était une Stéphanoise pure et dure. Et du côté de ma maman, c'est italien.
Moi, mon bar avant, je l'ai marqué le bar Sidi Aïch, c'est-à-dire notre village d'Algérie. Ça derrière, les clients qui viennent de là-bas d'Algérie, ils prennent l'adresse Bar Sidi Aïch. Alors ils viennent, ils rentrent chez moi.
père était de Akbou. Mais je vous dirais honnêtement, je ne connais pas. Donc il était de Timsrit, et Akbou, c'est pas loin. Et il a travaillé, en étant vraiment jeune, dans cette mine.
Mes parents, quand je me suis mariée en 84, ils sont repartis au pays. Donc j'ai toujours été toute seule, livrée à moi-même ici. Les Portugais, avant, ils venaient pour travailler. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent pour vivre du social aussi, comme beaucoup de gens. Dans n'importe quoi, ils prenaient n'importe quoi. Maçonnerie, bardage, étanchéité, à la mine. Et puis les femmes, ben, elles faisaient du ménage.
Donc, comme tu l'as indiqué avant cette coupure, vous avez, avec Sandrine Binou, fait un travail, en quelque sorte, d'immersion, d'observation, et parfois en passant pas mal de temps dans des cafés. Mmh. Bon. Et donc, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est les cafés sont des lieux traditionnellement masculins. Bon, là, on vient d'entendre des entretiens avec des femmes. Alors, comment ça se passe? C'était surtout masculin ou et comment se passait le fait que vous étiez plutôt deux jeunes femmes à travailler? Donc, comment étaient les relations? Est-ce que ça a été facilité ou est-ce que vous avez rencontré des obstacles de ce point de vue?
Ben, y a un peu les deux. En fait, il y avait des cafés plutôt masculins que je connaissais de par mon travail précédent où il y avait plus d'hommes dans l'équipe. Et puis parce que c'était pas un peu par connaissance aussi, donc il n'y avait pas eu de soucis, et que ma présence dans le café en plus, en fait, oui, ce qu'il y a, c'est que souvent c'est des cafés dans lesquels on a des difficultés à rentrer, mais parce que voilà, on le sait bien en sociologie, il y a un effet de milieu qui va faire que c'est un milieu masculin. Il se confirme dans ce rôle-là, et du coup les femmes ont du mal à y rentrer, et les hommes sont étonnés de voir rentrer une femme, etc. Mais il y a pas de, c'est pas discriminant en fait, c'est bon. Donc, c'est des lieux qui vont pas forcément être hostiles à la venue des femmes, ni désagréables, pour parler de façon adoucie.
Euphémisante.
Voilà. Et voilà. Après, il y avait des cafés plus masculins, avec des hommes plus âgés, etc., dans lesquels je voulais faire davantage d'investigations. Et puis, en fait, pour diverses raisons, mais aussi pour la raison qu'on vient d'évoquer, le fait qu'on soit que deux femmes, ça a été rendu plus difficile parce que ça demandait plus de temps, plus de négociations, plus de choisir les moments, que c'est pas mon activité principale et pas non plus celle de la photographe. On a dû jouer beaucoup avec le temps, la question du temps, des temporalités, et qu'effectivement au départ on avait programmé un travail différent parce qu'il y avait davantage de garçons dans l'équipe, et puis pour diverses raisons, on s'est retrouvé que des filles, puisque la monteuse aussi est une fille, mais enfin ça, elle n'avait pas à traîner dans les cafés, donc elle n'avait pas le même souci, mais il se trouve que voilà, c'est un film de filles. Donc, effectivement, ça, dans certains lieux, ça a été un petit peu plus compliqué, mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est que ces cafés sont beaucoup plus ouverts qu'on ne le pense, et que en plus, ils sont beaucoup plus cosmopolites et beaucoup plus mixtes que ce qu'on ne pense aussi. Alors après, c'est plutôt des catégories d'âge qui sont un peu moins représentées, mais les femmes qui ont, je dirais, moins de 60 ans vont quand même au café. Elles y vont moins que les hommes, mais elles y vont. Les générations actuelles vont plus facilement au café. Bon, après, c'est pas la même pratique. C'est quand même, ça reste une pratique masculine, mais les femmes ne font pas complètement tâche non plus dans le paysage. Il y a des cafés qui sont plus féminins que d'autres. Donc évidemment, on est allé vers les cafés les plus ouverts, les plus cosmopolites et les plus féminins. C'est sûr, ça c'est sûr.
Et il y a eu des moments où vous étiez peu présent, je ne sais pas, par exemple le soir, en milieu de journée, compte tenu des contraintes dans lesquelles vous vous trouviez.
Oui.
Est-ce que tu, en y réfléchissant comme ça, est-ce qu'il y a eu des moments où temporellement en quelque sorte, hein, où vous étiez là plus souvent que d'autres, avec des effets possibles, hein.
Oui, on était plus présente en milieu de journée, même peut-être en milieu d'après-midi, sauf l'immersion plus longue qu'on a faite aux Acacias, où là on était sur toute la journée. Ces cafés-là ne sont pas des cafés de soirée, donc déjà ils ferment vers 19-20 heures.
Ah oui.
Donc du coup on n'a pas l'effet de l'ambiance du café, du bar de soirée. Donc c'est plutôt des cafés de journée et avec des pratiques qui sont très quotidiennes et très journalières en fait. Donc oui, ça, du coup, ça n'avait pas cette incidence-là.
Alors, quelle est la place, tu parlais, bon, tu as travaillé sur les effets de mémoire, et donc quel rôle jouent les cafés dans l'entretien ou la transformation de la mémoire de ces groupes? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des photos, des vieilles photos, est-ce que les photos se modifient? Enfin, comment, quel est le rapport, comment ces cafés entretiennent en quelque sorte ou transforment cette mémoire-là?
Alors ça faisait partie justement des questions que je me suis posées au début de ce travail. Ça faisait partie des problématiques, comme on dit, dans une démarche scientifique. Et donc, effectivement, je voulais savoir comment c'était des lieux de solidarité, d'entraide, et en même temps, comment c'était des lieux de mémoire aujourd'hui. Parce que justement, quand j'ai commencé à les visiter, c'est ce qui m'était restitué. Et j'étais très frappée de voir que dans des cafés, qui pour moi étaient, comme on disait, des cafés algériens, parce qu'il y avait une dominante, les patrons étaient algériens et leur clientèle était plutôt algérienne, ben, il y avait plein de cafés du vieux Saint-Étienne, déjà. Donc il y avait une affirmation d'une appartenance, d'une ancienneté, d'une autochtonie, comme on dit un petit peu maintenant aussi dans des travaux qui portent sur la sociologie des classes populaires. C'est affiché comme une volonté de se souvenir et en même temps comme une sorte de capital, en fait, qu'on a à être... On est des gens qui sont établis dans la ville. On n'est pas, justement, on n'est pas des étrangers. Donc, cette mémoire de la ville, cette mémoire de Saint-Étienne, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup. Et ça revient beaucoup dans le café, dans le film. La mémoire de Saint-Étienne, la mémoire de la ville industrielle, la mémoire du travail ouvrier, la mémoire des quartiers populaires. C'est quelque chose qui est très appuyé dans les témoignages que j'ai recueillis. Et donc, parmi cette mémoire, il y a aussi la mémoire du pays d'origine, puisqu'il y a parfois dans certains cafés aussi c'est évoqué dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, où Sandra pointe du doigt une photo qu'elle a affichée dans son café, qui est la photo du village d'origine de sa famille, du côté de son père. Et donc, la référence au pays et la référence à la mémoire du pays, puisque souvent ils y ont très peu vécu, même s'ils y font des allers-retours. En tout cas pour les générations un petit peu plus anciennes, voilà, il y a cette présence forte de cette référence. Alors du coup, on peut peut-être écouter la chanson de Zut, j'ai mangé son nom, mais ça va.
Biladi, tu veux dire?
Biladi, c'est le nom du... Oui, de Natacha Atlas, pardon. Donc, j'ai choisi cette musique parce que, bien sûr, c'est la nostalgie du pays. Et c'est aussi pour évoquer le fait que la musique est très présente dans les cafés. On pourra peut-être en parler un petit peu après. C'est bien décrit dans le film. Et c'est la musique, la nostalgie des musiques traditionnelles, des musiques de la jeunesse, beaucoup. Mais c'est aussi la musique contemporaine, celle du moment. Thank you.
bien, avant la pause, juste avant la pause, tu évoquais les différents types de musique. Et donc, tu parlais de musique contemporaine, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que tu entends par musique contemporaine? Et puis, plus directement, est-ce qu'on entend du rap dans ces cafés? Rap, hip-hop, enfin bon, musique qui est traditionnellement associée aux jeunes issus de l'immigration postcoloniale, comme on dit.
Alors, donc, en fait, moi, je suis sur des cafés, des quartiers populaires du centre-ville, qui sont donc plutôt des cafés. Enfin, ceux sur lesquels j'ai travaillé, c'est pas des cafés de jeunes, c'est plutôt des cafés de trentenaires, quarantenaires aux plus jeunes, et voire même plus. Il y a beaucoup de retraités, notamment. De retraités des mines, de retraités des industries. Il y a aussi des gens qui sont en fin d'activité, en longue maladie. Voilà. Et donc, les jeunes, même en étant pas très actifs, sont moins présents dans les cafés dans lesquels je suis allée. Donc, du coup, la question des musiques contemporaines des jeunes, et en particulier du rap, non, c'est pas ce qui est écouté. Et puis, les patrons mettent la musique de leur clientèle, mais ils mettent aussi la musique qu'ils aiment, eux. Donc, s'ils sont pas jeunes eux-mêmes, ils vont être un peu moins... Ou s'ils n'ont pas cette... culture-là, ils vont être moins enclins à passer cette musique. C'est ce que je pourrais répondre.
Mais quand tu dis musique, à la fois la musique dont leur famille est originaire ou même la musique qu'ils aiment, mais si c'est pas du rap, c'est quoi? Ça peut être du rock californien ou ça peut être Férouz. Est-ce que c'est aussi hétérogène que ça ou c'est quand même assez centré?
Ben ça dépend. Ça dépend de la clientèle et ça dépend du patron. Il y a des bars dans lesquels il y a Skyrock en continu, en fond sonore. Souvent, c'est quand même la radio, parce que c'est plus facile. Ou alors, il y en a quelques-uns qui ont des playlists, mais même dans ceux que j'ai fréquentés, franchement, honnêtement, il n'y a pas de playlist. Donc, c'est plutôt la radio quand il y a de la musique. Quand c'est un PMU, c'est la musique du PMU. Donc, c'était des choses qu'on voulait mettre dans le film, d'ailleurs. Et puis, finalement, on avait beaucoup, beaucoup de choses. Et au montage, on a fait beaucoup de tri. Et j'en profite pour souligner le travail de la monteuse, parce que c'est vraiment un travail de dentelle. Elle s'appelle Anne Guichère et elle est vidéaste. Et elle a vraiment, vraiment, vraiment fait un énorme travail. Je ne sais plus ce que je disais.
Oui, sur la question de la musique, les sources musicales sont très hétérogènes.
Les sources musicales sont très hétérogènes, elles sont plutôt celles, donc je disais, de la radio. Après, il y a, quand on fait appel à la mémoire de ces cafés, il y a, dans le film, on voit bien que les Algériens en particulier organisaient des soirées, concerts, dans le cadre de l'organisation de la communauté, enfin de comment on se retrouvait ensemble pour évoquer la culture, le pays d'origine, etc. Ça, c'est des choses aussi, on a des écrits assez anciens d'auteurs des années 30 notamment, qui expliquent que des chanteurs marocains et algériens venaient du pays et faisaient le tour des colonies marocaines et algériennes installées en France dans les cafés pour distraire leurs compatriotes. Donc il y a cette tradition qui est très forte, et puis il y avait aussi des musiciens comme Slimane Azim, dont j'ai déjà parlé ici parce que c'est quelque chose qui était évoqué dans l'ouvrage qui avait été fait à l'issue de l'exposition d'ici et de là-bas. Ce musicien, par exemple, il était ouvrier dans la journée, il était même mineur dans le nord, et en sortant du boulot, il allait faire ses répètes et ses concerts en faisant le tour de France. Donc il y a cette tradition là après il y a la tradition du café populaire qui pendant longtemps a été là où on diffusait, donc dans les cafés algériens aussi ça se faisait, il y avait les premiers vidéoclips avec les scopitones, qui étaient des machines dans lesquelles on mettait une pièce et on choisissait son artiste et on avait une petite vidéo, un petit film qui était tourné sur la musique. C'est l'ancêtre du clip vidéo qui est apparu dans les années fin des années 80. Et puis dans les années 80. Et puis après il y avait aussi le jukebox, classique jukebox, et dans le film il y a une séquence assez sympa de Louise et et son mari qui tiennent la friterie dans le quartier Chavanel et qui expliquent que le jukebox, en fait, il a été créé par la clientèle. C'est eux qui choisissaient les disques qu'ils voulaient qu'on mette dans le jukebox et qui réclament encore aujourd'hui d'entendre ce jukebox.
À plusieurs reprises, tu as utilisé le terme de cosmopolite ou cosmopolitisme pour caractériser un peu ces cafés. Alors, est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par là ? Est-ce que, bon, il y a peut-être la dimension musicale qu'on a déjà évoquée, qui semble assez hétérogène, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui permettraient de dire qu'il y a une dimension cosmopolite dans ces cafés ?
Alors, j'employais ce terme pour ne pas employer celui de multiculturel. Parce que d'abord, ça sonne pas de la même façon. Mais surtout parce que ce n'est pas que multiculturel. Ce n'est pas que des cafés dans lesquels on trouve une clientèle et des patrons qui viennent de plusieurs univers et qui ont des origines d'immigration différentes. Ça, c'est le cas. Bon, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un brassage de référence, effectivement, dans la musique, dans la langue notamment. Alors, le premier extrait du film qu'on a entendu au tout début de la séquence, on entend la patronne qui échange avec un de ses clients qui lui parle en stéphanois, qui lui parle en gaga. Et donc, c'est encore quelque chose qu'on peut entendre dans les cafés ici à Saint-Étienne. C'est un peu rare, mais ça arrive encore. Et j'ai tenu à ce que ça soit dans le film parce que c'était aussi pour montrer cette dimension-là. Qu'effectivement, on entend plusieurs langues. Et j'étais amusée un après-midi d'été sur la terrasse du café de l'époque, entendre une petite famille rome qui buvait son sirop en attendant qu'un autre compatriote les rejoigne et qui parlait au téléphone très fort pour le guider jusqu'à la terrasse du café, alors que c'était la rupture du Ramadan en plus, je crois. Donc il y avait un autre groupe d'hommes à côté qui échangeaient en arabe et le patron qui leur répondait en arabe, alors qu'il a toutes ses origines stéphanoises de longue date, mais il maniait lui aussi quelques mots de vocabulaire et voilà, la vie populaire stéphanoise, quand on a vraiment fréquenté très régulièrement au quotidien des gens qui sont venus d'autres origines, on parle un petit bout d'italien, un petit bout d'espagnol, un petit bout de portugais, donc c'était aussi ça, c'était aussi la question de la langue.
Et en termes de tenue vestimentaire, est-ce que tu as permis d'identifier des groupes où là on est dans les tenues occidentalisées ?
Bah, les deux. Oui, effectivement, il y a les deux. Alors, c'est plutôt pour les personnes qui viennent du Maghreb que ça. Enfin, du Maghreb ou Turquie aussi. Turquie, les immigrations plus récentes sont un peu plus marquées, mais pas forcément, parce qu'il y a des personnes plus âgées qui gardent des tenues traditionnelles, qui vont les porter par exemple le jour de la prière, le vendredi, et pas les autres jours, c'est un peu variable. Et puis, en même temps, effectivement, il y a tout un décor, une ambiance dans ces cafés qui sont très occidentalisés, mais qui ont toujours... On a essayé d'appuyer un petit peu là-dessus parfois dans le film, même si c'est très, très discret. Mais il va y avoir des petits signes extérieurs d'appartenance étrangère qui vont transparaître dans les décors et dans la façon de... effectivement, peut-être un peu les façons de se tenir, de s'habiller. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire un film de photo, parce que ça se dit peu. Dans le discours, c'est pas forcément facile à recueillir, mais dans l'observation, c'est plus facile, même si c'est discret. Et du coup, la photo permet d'appuyer sur ces choses-là. Donc, c'était très intéressant, ça. Alors, du coup, oui, on pourrait lancer un autre extrait sonore du film.
Au temps, quand il y avait des manifestations, il y en a toujours eu des manifestations, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et oui, ils venaient, ça nous faisait bien travailler. Il y avait sûrement des gens qui étaient un peu plus élevés, mais c'était surtout de la clientèle ouvrière. Il y a des photos où on voit l'intérieur du bar, on voit les clients, ils viennent avec leurs enfants, après ils viennent avec leurs petits-enfants. Il y a une photo où on voit ça.
Vous allez avoir des plombiers, vous allez avoir des électriciens, maintenant moins. Mais avant, il y avait beaucoup de corps de métier qui venaient là. Puis à l'époque, c'était un bar qui tournait, qui faisait presque les 3-8. Hein. Quand il y avait les grandes usines à Terre-Noire, ça, 4 heures du matin, ça tournait.
Et ça s'appelait déjà le Café du Centre ?
Ça s'appelait déjà le Café du Centre. Seulement, on ne dit pas, je vais au Café du Centre, je vais chez Maggie, je vais chez Marie-Jo, chez Chubilo.
Ben, la musique, on s'est fait aider par les clients, ils ont choisi les disques. Un peu de tout. J'étais très apprécié, les gens venaient.
Ils nous demandent encore.
Ah oui. Venaient beaucoup pour ça.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux, m'a souri. Quand les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés priaient de me voir emmener.
La fête, dès qu'il y a un verre en vue, c'est déjà la fête.
Il y a la fête de la musique, peut-être, qui draine du monde.
Ah oui, c'est vrai.
Je ne la fais plus, la fête de la musique.
Pourtant, nous, on en a fait des belles fêtes de la musique. 3 jours de suite, hein. Sans arrêt, et plein de monde. On avait 3, 4, 5 groupes par soir.
On vient d'entendre un extrait où il y a à la fois du Brassens et du Nougaro. C'est-à-dire, comment ce type de chanson, de culture musicale se retrouve dans ce type de café? Qui en est le vecteur? Est-ce que c'est les patrons? Est-ce que c'est des plus jeunes? Est-ce que ça fait partie de cette culture occidentale qui est présente dans ces cafés? Quels sont les processus?
Ben, ça fait partie surtout de la culture populaire, en fait, pour moi. C'est-à-dire que c'est des cafés, là on est à la friterie, donc c'est un lieu particulier, la friterie aussi, hein. C'est au cœur du quartier Saint-Jacques, comme on l'appelle aujourd'hui, donc c'est donc à côté de Chavanel, et ça fait maintenant depuis la fin des années 60 que les patrons tiennent ce café. Si je me suis intéressée à ce café, c'est parce qu'il m'avait déjà été cité dans les témoignages antérieurs, comme un endroit dans les années 40 où on se rendait parce qu'on en avait l'adresse et que en venant d'Algérie, on descendait dans cet endroit qui avait des garnis à l'étage. Donc on y trouvait le gîte et le couvert pour les premiers jours de son arrivée. C'est ce qui est arrivé pour Mohamed qui tient le café avec Louise. Donc c'est un couple mixte qui tient ce café et donc ils ont eu l'habitude d'être très proches du milieu musical nocturne à certaines périodes. Donc voilà, on allait à un moment donné, en sortant de boîte de nuit, manger des frites à pas cher à la friterie et on pouvait faire la fête très tard. Donc c'était quand même un endroit, il a eu plusieurs époques, quoi, plusieurs périodes, aussi en fonction de la vie familiale des patrons qui tiennent ce café. Et donc ils ont autour d'eux comme ça une clientèle très très hétéroclite, très mixte socialement, des échelles sociales très différentes. Il peut y avoir vraiment l'ouvrier en bâtiment, journalier qui travaille dans le coin et le notaire qui a son office pas très loin et qui va s'y rendre régulièrement parce qu'on aime l'ambiance et parce qu'on aime l'ambiance simple et populaire de ce lieu. Et ça, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et Brassens et Nougaro, ben c'est cette culture française populaire qui est très écoutée au Maghreb aussi et partout, quoi. Donc effectivement, ça parle à tout le monde.
Et quels sont les effets des transformations qu'il faudrait préciser de la ville sur ces cafés. C'est-à-dire que si tu prends la friterie est dans le quartier où il y a eu des rues piétonnes. Enfin bon, on a bien vu qu'il y a eu une transformation, une volonté de transformer ce quartier-là en faire un quartier un peu de vie nocturne qui a perdu, me semble-t-il, certaines dimensions populaires. Alors que en revanche, tu peux avoir d'autres cafés qui sont restés dans des quartiers plus populaires, voire qui sont en voie de paupérisation.
Oui.
Donc, quelles sont les conséquences de ces doubles processus, entre guillemets, sur ces différents cafés?
Alors, il y en a plein, en fait. Donc, ça va être je vais faire court. Mais ça fait partie aussi du travail plutôt de recherche, là, pour le coup, que je mène. Et donc, la friterie, eh ben, l'effet que ça a, c'est que ça reste un petit peu... une espèce de vestige. C'est un établissement assez à part dans le quartier. Alors après, autour de la place Chavanel et dans les rues environnantes, on peut retrouver des ambiances très populaires comme ça et plus simples, mais effectivement, l'embourgeoisement du quartier Saint-Jacques n'a pas du tout touché la friterie. Et du coup... c'est un lieu qui reste un petit peu un mystère parce que ils sont âgés maintenant tous les deux, ils veulent partir en retraite, ils voudraient vendre leur établissement et en même temps ben, c'est un peu un déchirement parce que, et c'est le cas de beaucoup des patrons que j'ai rencontrés d'ailleurs, parce qu'ils savent que quand ils vont vendre ça sera évidemment pas repris pour se poursuivre dans la même veine, c'est très difficile, c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que le commerce, la vie commerciale, la vie des quartiers fait que les cafés se transforment beaucoup, qu'il y a de plus en plus de licences PMU, que ça se standardise, la déco change, etc. Et l'ambiance est très différente. Donc c'est aussi des cafés un peu qui sont comment dire, qui ont traversé le temps en fait, qu'on saisit et qui vont être amenés à disparaître, en tout cas dans la forme qu'ils tiennent aujourd'hui.
Mais est-ce que, peut-être que tu l'as évoqué de manière plus ou moins implicite, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi menacés par une forme, entre guillemets, de disparition de leur public? C'est-à-dire si les fractions les
oui,
plus jeunes...
Oui, bien sûr. Remplacement de population, quoi.
Et puis si les fractions les plus jeunes ne sont pas là, c'est que leur population va vieillir et
oui.
va disparaître.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors il y a ça, et puis il y a aussi effectivement le fait que ben, les quartiers sont très restructurés. Par exemple, il y avait la rue Pierre-Sémard avant, qui avait beaucoup de cafés, qui était très cosmopolite, où il y avait beaucoup de commerce, et qui n'est plus du tout une rue commerçante maintenant, où il n'y a plus qu'un bistrot et un primeur en bas de la rue. Et en fait, cette rue, elle a été vidée de son sens commercial, parce que c'était une voie d'accès au centre-ville qui a été contournée par la suite... par le boulevard urbain, et puis le commerce de proximité s'est déplacé, a disparu, donc ça a des conséquences importantes sur les cafés, et en même temps, il y a des cafés qui sont restés un peu des sortes de bites d'amarrage, je dirais, pour certains publics, certains clients, qui ont été déplacés eux-mêmes, parce que leur bâtiment a été démoli, ils ont été relogés dans d'autres quartiers, dans des grands ensembles, mais ils reviennent le week-end, voir les copains du quartier qui ont eux-mêmes déménagé d'ailleurs, mais ça fait centralité, ou alors à la retraite ils continuent à fréquenter les cafés, et donc il y a un papy au café des Acacias qui vient tous les après-midi boire son petit coup, qui habite au Soleil, il traverse tout Saint-Étienne pour venir boire son café dans son quartier d'origine.
Alors justement, tel que tu l'as décrit, ce sont surtout des cafés qui sont dans les quartiers les plus anciens, entre guillemets,
oui.
de Saint-Étienne.
Oui.
Bon, est-ce que tu as eu le même processus au Soleil, ou alors à plus forte raison dans les cités qui se sont construites à partir des années 60? Bon, est-ce qu'on retrouve ce type de café? Est-ce qu'il y a eu des tentatives, ou est-ce qu'il y a eu des tentatives avortées? Ou est-ce qu'au fond, ces nouvelles formes d'urbanisation ont radicalement condamné ce type de café?
Oui, je crois. C'est pas les mêmes, en fait. Il y a des cafés populaires, évidemment, dans les grands ensembles et dans les quartiers qui ont été construits dans les années 60, mais ça génère pas tout à fait la même chose. Pour le coup, ils sont très masculins. Et alors, en même temps, je parle de ce que je ne connais pas, en fait, parce que je ne les ai jamais fréquentés dans ma vie civile, et je ne les ai pas non plus fréquentés dans le cadre de ce travail. Donc, bon, je pourrais pas en parler. Après, il y a des différences. Le quartier Beaubrun est un quartier traditionnellement ouvrier et commerçant. Il y avait peu d'artisans. Donc, du coup, comme il y a moins d'ouvriers aujourd'hui, les commerçants disparaissent aussi. C'est vrai que c'est un quartier qui... Les cafés sont vraiment mis à mal. Et en plus, ce qui nous est décrit aussi, c'est que plus la vie commerçante est fragilisée, plus les cafés le sont. Et inversement, ils sont très interdépendants. Donc ça, ça joue beaucoup. Alors que ce n'est pas le cas à Chavanel, justement, parce qu'il y a une activité commerciale régulière sur la semaine. Et ça l'est un petit peu moins à Terre-Noire, parce que c'est des cafés qui sont sur la place de Terre-Noire et où il y a un effet de centralité qui est plus fort. Donc ça dépend aussi effectivement du rôle que joue le quartier dans le reste de la ville pour ce qui est de l'avenir de ces cafés. Alors justement, peut-être qu'on pourrait enchaîner la chanson de... l'extrait qu'on doit, que j'avais prévu qu'on passe.
Génération de femmes qui venaient au bar principalement pour fumer, parce qu'elles ne fumaient pas à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a eu une génération qui se... où c'était, oui, c'était vulgaire une femme qui fumait. C'était, enfin, elles avaient moins ce réflexe comme nous d'allumer une clope n'importe où, quoi. Et oui, c'est vrai que j'en avais quelques-unes qui ne viennent plus d'ailleurs, puisque maintenant c'est interdit, mais qui venaient pour ça, c'est vrai.
La vie a changé, c'est tout. La vie a changé. Le commerce a plus bon. L'interdiction de fumer dans les bars. On a eu l'interdiction de fumer, on a eu tous ces contrôles d'alcotest. Le bar a vraiment changé. On vend beaucoup moins d'alcool. Nous, c'est des bars. Nous, ici, c'est un bar, c'est des cafés.
Maintenant, comment dire, il y a très peu de bistrots et... ils disparaissent les uns après les autres, sauf si certains sont placés devant, je dirais, un marché. Il faut qu'il y ait un endroit où les gens puissent venir et le bistrot va profiter de cet afflux de personnes.
Aujourd'hui, les gens travaillent la semaine. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, le mari allait au boulot, il allait dans toutes les grandes usines de Saint-Étienne, et la femme, elle restait au foyer avec ses enfants. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle venait au marché. Aujourd'hui, la femme travaille, le mari travaille. Eh bien, elle va au marché quand? Il y en a combien qui vont au marché le samedi, le dimanche, faire leurs courses ici? Ouais? Ben, il y en a 4-5. Ils nous ont déserté vraiment la place Jacquard. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Les murs sont payés, le commerce est payé, donc on se casse plus la tête hein, maintenant. Vous savez, pour qu'on vive, hein, on ne cherche pas à gagner de l'argent. On vit, on paye ce qu'on doit et on vit.
Et votre fils, alors, il envisage les choses comment pour l'avenir?
Ben, mon fils, il travaille avec moi. Ben, son avenir, c'est moi qui lui ai fait. Heureusement que j'ai travaillé longtemps, donc son avenir, je vais le faire. Moi, j'ai fait l'avenir des enfants. Donc.
Et pourquoi...
De celui qui a fait...
Donc voilà, on voit bien dans cet extrait effectivement comment il y a une interdépendance entre la vie commerciale du quartier, les espaces publics extérieurs et les lieux publics que sont les cafés.
Est-ce que si on fait cette dialectique, est-ce que par exemple autour de Jacquard, est-ce que le poids du marché Jacquard a des effets sur les cafés environnants ou
oui.
Est-ce que c'est indépendant?
Ah non, complètement. Non, ça c'est très très, c'est vraiment très très fort à Jacquard. Il le dit à plusieurs reprises dans le film. Donc c'est le patron du café de l'époque, Roland, qui était avant d'ailleurs patron d'un café dans la rue Pierre Sémard dont je parlais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on est allé le rencontrer. Et donc il explique lui que effectivement le marché lui amène de la clientèle plusieurs jours par semaine. Donc c'est très précieux. Ça a vraiment contribué au succès du café et à son enrichissement économique, quoi. Et par contre, ce qu'il a beaucoup déstabilisé, comme les autres cafés de la place, dont certains d'ailleurs ont dû passer la main à... Enfin, il y en a qui ont fait faillite, quoi, je dirais. C'est la restructuration du quartier, parce que du coup ça a bousculé en fait les pratiques, les usages, les modes de stationnement, etc., et que ça les a beaucoup déstabilisés. Et donc il a le sentiment maintenant quand même que ça, la restructuration urbaine plus les aménagements législatifs autour de l'interdiction de fumer, de la réduction de la consommation d'alcool, etc., ça a beaucoup déstabilisé son activité. Alors c'est pas pour ça qu'il faut condamner l'interdiction de fumer et la modération de boire d'alcool, mais ça veut dire que c'est des professions qui ne sont pas forcément très accompagnées et qui en tout cas ont à se transformer.
Bien, pour terminer, tu pourrais peut-être rappeler les possibilités de voir le film, puisqu'il va être encore proposé à différentes occasions, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas un film qui sort en salle, hein, c'est un projet qui n'a pas de diffuseur. Donc, en fait, c'est des diffusions, des projections qui se font de façon privée ou à la demande par des institutions. Donc, il y a des choses qui sont programmées dans le cadre de la saison culturelle de l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine, qui donc fédère d'autres projets. Donc il y a par exemple dans le cadre de la semaine de l'interculturalité qui est organisée par l'École de l'oralité, qui rend compte d'un certain nombre de travaux qu'elle a fait sur l'année avec des scolaires, auxquels j'ai participé d'ailleurs, recueil de témoignages de migrants. Donc il va y avoir une projection qui va avoir lieu le 21 mai à 16h au centre social du Babet. Il va y avoir des petites projections mais plus privées pour la clientèle de ces cafés. Et puis il va y avoir une projection aussi le 10 mai à 19h je crois, pareil dont j'ai pas le nom, du quartier Beaubrun, avec le collectif X, qui est un collectif qui fait de la récolte de paroles habitantes sur les quartiers de Beaubrun et de Chavanelles, et qui tous les soirs va accueillir des habitants du quartier sur des thèmes particuliers. Et ce soir du 10 mai, on va discuter du film et des cafés. Et puis il y aura d'autres projections sans doute à la fin de l'exposition. Lorsque l'exposition va se fermer, se terminer, on prévoit avec les archives et le centre Max Weber de faire une clôture et du coup de un petit retour en arrière pour essayer de voir tout ce qui a pu se passer autour de cette exposition et dans quel cadre elle a pu produire des choses. Et ça se fera sans doute au moment de la Biennale Trace en Rhône-Alpes qui devrait se dérouler en novembre. Et puis une soirée thématique qui devrait être organisée à l'automne au Remue-Ménage. Voilà. Et puis il y aura au mois d'avril, le fin avril, il y a une soirée au Remue-Ménage aussi autour de la question de la façon dont les pluralités sont audibles dans la ville de Saint-Étienne. Donc là, le film ne sera pas projeté, mais c'est une soirée qui est intéressante. Donc allez voir sur le programme du Remue-Ménage. C'est une soirée autour de la question du politique aussi, qui peut donc être intéressante, question à laquelle on s'intéresse beaucoup au sein du Grémos. Et donc, on va finir notre émission avec une chanson d'Yves Montand, qui est très, très appréciée lui aussi. Il aurait pu être chanté dans cette fête de la friterie, qui s'appelle « La grande cité » et qui évoque justement l'ambiance de ces grandes villes ouvrières dont Saint-Étienne a fait partie. Et c'est vrai que ça fait partie justement du paysage urbain qui a beaucoup changé, paysage urbain visuel et sonore, puisque Saint-Étienne est devenue très silencieuse par rapport à cette époque industrielle. D'autres bruits l'occupent aujourd'hui, mais ceux-là beaucoup moins. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Place à la musique.
Je suis né dans la cité qui enfante les usines, là où des hommes turbinent toute une vie sans s'arrêter, avec leur haute cheminée qui s'élance vers le ciel comme pour cracher leur fumée en des nuages artificiels. Et dans le bruit des sirènes, des hommes vont, des hommes viennent. C'est la grande ville qui rugit, c'est la grande ville qui surgit. Comme c'est drôle, ces gens qui marchent dans la rue. Comme c'est drôle, ces gens perdus dans la cohue. La sérénade des fauchés monte comme une mélopée. La sérénade des gens bien. Et puis de ceux qui ne sont pas bien. Et moi, je les regarde vivre. Et et je trouve ça drôle. Mais il y a dans la cité une fille à la peau douce, à la va comme je te pousse, une fille toujours mal peignée, elle a sa robe déchirée, mais j'ai trouvé dans ses yeux un bout de ciel qui s'est égaré, qui n'appartient qu'à nous deux. Je ne vois plus les usines, je n'entends plus les machines, qui donc se dressent sur la cité. C'est l'amour et sa liberté. Comme c'est drôle, un cœur qui marche dans la rue. Comme c'est drôle, un cœur perdu dans la cohue. La sérénade de l'amour, la sérénade des toujours, monte, monte sur la cité pour lui chanter sa mélopée. Et moi, je suis là pour la suivre. Et je trouve ça drôle.